Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour, du désert égyptien au désert mexicain en passant par les appartements parisiens. C'est Cinérama qui débute avec quelques films qui sortent le 13 avril et puis d'autres qui sont déjà sortis. Bonjour Marine.
Oui, bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler de L'Avenir, le nouveau film de Mia Hansen-Love. Donc ça c'est pour la partie appartement parisien. Et puis ensuite pour la partie désert égyptien, je vais vous parler de God of Egypt. Et là je crois que je tiens le meilleur film de l'année.
Et puis toi Manu, ce sera pas forcément des appartements parisiens.
Non, rien, ni l'un ni l'autre. Ce sera High Rise, un film de SF de Ben Whisley. Et puis mon documentaire de l'année, puisque je vais rarement voir des documentaires, La sociologue et l'ourson.
Et puis moi, eh bien, je vous parlerai de Marie et les naufragés, film de Sébastien Bête BD. Alors, c'est pas, ça n'a rien à voir. C'est pas Beg, c'est Bête BD. Et puis, nous écouterons aussi une interview. Alors, je l'ai présentée comme ça, de Valeria Golino, mais en fait, on l'entendra un tout petit peu. On entendra surtout eh bien, le réalisateur Giuseppe Godino, cette fois-ci, pour le film Par amour, Per Almo Vostro. Et puis, eh bien, on va commencer avec Desierto de Jonas Cuarón.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Les migrants, voilà un sujet brûlant, qu'il s'agisse des Syriens pour nous, Européens, ou des Mexicains pour les Américains qui écoutent Donald Trump raconter que le Mexique, au-delà des tacos, apporte de la drogue, des violeurs et des criminels aux États-Unis et qu'il est prêt à construire un mur séparant les deux pays d'Amérique du Nord. Alors c'est précisément dans ce contexte-là que nous place Desierto de Jonas Cuarón. Mais avant les hommes, eh bien, il y a un paysage figurant une frontière, le désert du titre. Un paysage désertique donc, montré dans toute son étendue, dès les premières images. Alors, il agit comme un seuil vers une prochaine histoire pour le spectateur, tout comme pour les hommes qu'on voit peu à peu à l'écran. Une dizaine de Mexicains entassés dans une camionnette filant sur le sable, des migrants qui, pour parvenir jusqu'aux États-Unis, devront quitter la camionnette pour traverser ce désert à pied. S'il n'y avait que les policiers à éviter, cela pourrait aller, mais dans ce paysage hostile où le sable côtoie la rocaille, les cactus, les serpents et la chaleur écrasante, eh bien, il y a aussi un redneck aussi hargneux que son chien, prêt à tirer comme des lapins ces sales mexicains clandestins. Voilà Desierto, un homme armé donc contre quelques hommes et femmes démunis qui sont à vue et qui en plus sont placés dans un paysage hostile. Alors ce qui aurait pu être une traversée difficile devient une mission impossible et on voit bien là qu'on n'est pas dans un quelconque film aux élans naturalistes et à la portée politique sur les migrants, mais dans un film de genre, le survival.
On me tire dessus !
Bienvenue au pays de la liberté.
Voilà, c'est résumé. Alors, il y a deux bourreaux, le redneck alcoolisé et son chien, et des proies, l'immigrant mexicain. Alors, on ne saura pas grand-chose des protagonistes de Desierto. Si on a entendu un peu le son de la voix de chacun, il n'est pas question ici de nous farcir de dialogue, ce qui, dans une certaine mesure, est plutôt rassurant. Après tout, le réalisateur, s'il avait voulu temporiser le thriller, y placer un peu d'émotion, aurait pu raconter l'histoire de ses personnages. Mais ici, rien de tout ça. Les dialogues, à l'image du climat, sont secs. Vu le scénario tenant sur une feuille, le film ne peut reposer que sur des éléments visuels et purement narratifs. Et à ce jeu-là, Jonas Cuarón s'en tire plutôt bien. Il sait gérer le suspense, puisqu'on se doute de à peu près qui va mourir, et parvient habilement à rythmer la course-poursuite. Alors il nous offre un contraste entre le pas trop lent des migrants et les courses folles du chien, le calme du tueur et l'affolement des Mexicains, ou encore il profite de la topographie des lieux, soit des montagnes, autour desquelles les personnages courent pour mettre en scène une poursuite qui finit par devenir complètement absurde. Desierto jouit d'une indéniable maîtrise, et en prenant de tels personnages et un tel contexte, on aurait peut-être attendu une dimension sensible, mais l'ensemble reste froid. Jonas Cuarón, qui est le co-scénariste aussi de Gravity, qui est le fils d'Alfonso Cuarón, explique que Desierto est en quelque sorte sa version terrestre. Comme dans Gravity, les personnages doivent s'extirper de leur espace sous peine de mourir. Alors, Concernant les acteurs, il y a Gaël Garcia Bernal, avec ses yeux clairs, qu'on a vu dans La science des rêves, No, ou encore Carnet de voyage. Alors lui, il est dans les camps des poursuivis. Et puis Jeffrey Dean Morgan, lui qui est déjà un méchant hein, dans la série The Walking Dead, reste eh bien, un bon vieux méchant. Le contraste entre les deux assure une totale vraisemblance. Alors il faut aussi évoquer la musique du compositeur Wookid, dont je suis plutôt loin d'être fan, mais va plutôt bien avec ces images. Jonas Cuaron indique que deux références hein, l'ont guidé pour construire son film. Il s'agit de Duel et de Runaway Train, deux films qui semblent être de purs thrillers, mais des films d'action, mais qui finalement dépassent un peu l'action pour devenir un peu existentiel. Voilà. Donc je conseille ce film de Jonas Cuaron, Deserto, qui sort le 13 avril.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis, et même saloperie, hein.
Et maintenant, on passe eh bien, voilà, au désert d'Égypte avec God of Egypt. Il y a fort, fort longtemps, dans le royaume d'Égypte, les dieux et les hommes vivaient ensemble et en harmonie. Osiris, le roi des dieux, dirigeait son royaume dans la paix, en compagnie de son fils Horus. Jusqu'au jour où Seth, qui est son second fils, mais également le dieu de la guerre, réalise un coup d'état, assassine son propre père et arrache les yeux d'Horus, qui sont le symbole de sa puissance. Et à ce stade du film, eh bien, je peux vous dire que nous aussi, on a déjà envie de se faire arracher les yeux.
L'Égypte a toujours été un paradis. Mais la voilà plongée dans le chaos. Dieu des airs, tu dois protéger les mortels.
Je ne sais pas si je suis assez fort.
Alors deviens plus fort.
Je régnerai bientôt sur le monde.
Mes légions du désert seront le bras du jugement dernier!
Prosterne-toi ou meurs. Je ne ferai pas cette folie.
Alors, dans une interview de Roche Dizem, Vincent, que tu avais réalisée à l'occasion de la sortie de Chocolat, on pouvait l'entendre dire « On a le droit de violer l'histoire tant qu'on lui fait de beaux enfants ». Le souci, c'est que dans God of Egypt, à ce stade, ce n'est même plus du viol, hein, c'est un gangbang avec du gravier et du papier de verre. Et quant à lui faire de beaux enfants à l'histoire, bah, c'est probablement le film le plus laid et le plus improbable que j'ai vu depuis longtemps. Alors Manu nous sort toutes les semaines qu'il tient le meilleur film de 2016. Alors moi, je vous ai trouvé le pire, hein, comme ça, vraiment, et de loin. Si vous êtes un peu féru de mythologie égyptienne, n'oubliez pas que Hollywood fera avec elle comme avec tout autre. Elle la passera à la moulinette scénaristique et régurgitera un résidu de scénario sans fond ni forme qui vous prend ouvertement pour des imbéciles. Alors on peut, à la limite, en s'appuyant sur le principe de suspension d'incrédulité, accepter cette histoire sans queue ni tête et se laisser aller à un plaisir purement visuel. Malheureusement, les effets spéciaux ultra bas de gamme et une mise en scène effarante de nullité ne permettront même pas cela. On assiste à une orgie numérique indigeste. La palette graphique est tellement mal utilisée qu'on se croirait devant un jeu vidéo est pas un bon, en particulier pendant les scènes de combat hein, qui manquent mais complètement de fluidité. Autant vous dire que même ceux qui sont là que pour l'action hein, seront complètement frustrés, puisque le réalisateur Alex Proyas n'a même pas fait son boulot correctement de ce côté-là, et que le film échoue même à vous divertir. Et puis, le film use d'un procédé extrêmement daté et très dérangeant, à savoir le whitewashing qui consistait bah, dans les films d'autrefois à prendre des comédiens blancs pour les faire jouer des personnages de couleur en les grimant. Eh bien, c'est le cas ici, hein, alors qu'on est quand même en 2016. Faut surtout pas prendre des acteurs arabes, alors on prend des bons acteurs américains, enfin des mauvais acteurs américains, mais des bons américains. On leur met une bonne couche de poudre terracotta sur le visage et puis on leur teint les cheveux en noir pour qu'ils jouent des Égyptiens. Alors au final, on écope d'un casting aussi ridicule que bah, voilà, tout le reste du film. Hein. La déesse de l'amour a une tête de transsexuel portoricain, le héros a l'air de sortir d'un boys band californien. On a aussi un acteur de Game of Thrones et Gérard Butler, rescapé de 300, qui avait visiblement des impôts à payer. Hollywood bah, essaye depuis un moment hein, de raviver le genre du péplum avec une inefficacité assez flagrante s'il y a eu depuis quelques années, un retour en force du western, c'est grâce aux auteurs Tommy Lee Jones, Iñárritu, Tarantino, entre autres, qui ont réussi à se réapproprier ce genre pour lui donner une nouvelle jeunesse tout en conservant les codes. Le péplum ne connaît pas le même succès. Les studios ont beau s'acharner depuis Gladiator et 300, aucun film ne parvient à échapper au four intégral, que ce soit au niveau public ou critique. Il y a eu les Hercules, il y a eu Pompéi, que j'avais d'ailleurs chroniqué ici avec la même souffrance. Enfin, tous les récents films finalement inspirés de la mythologie ont été des ratages, probablement eh bien, parce qu'ils sont confiés à des réalisateurs de seconde zone dont les moindres choix artistiques sont en plus dictés par des producteurs qui n'ont jamais tenu une caméra. Et pourtant ici, ben, on avait quand même aux commandes Alex Proyas, qui n'est pas non plus la moitié d'un incapable. On lui doit iRobot, on lui doit The Crow et Dark City, qui sont quand même devenus cultes depuis. Et le comble dans tout ça, c'est qu'il est né à Alexandrie, en Égypte. Enfin voilà, bon bah God of Egypt, donc voilà, on n'est qu'en avril, début avril, mais je pense que là vraiment on tient le navet de 2016. Hein. C'est presque de l'art en fait à ce niveau-là. Oui,
tu veux défendre Alex Proyas.
Non, je veux pas défendre le film, mais je pense qu'il y a rarement eu des, contrairement au western américain, il y a rarement eu de chef-d'œuvre dans le péplum, même aux États-Unis, car à part Ben-Hur, Spartacus et un ou deux autres, le cinéma américain, c'est
oui,
souvent
c'est vrai
planté
que ça avait
dans
pas
le péplum.
Le même,
il suffit de voir des films comme Cléopâtre ou d'autres.
Il y a Gladiator.
Ah. Oui, mais Gladiator, j'avoue que je ne suis pas très fan non plus. Hein, mais ce n'est pas un genre qui réussit très bien aux Américains, parce que ce n'est pas issu de leur culture, alors que le western, profondément.
Alors que ce serait d'ailleurs plus simple avec les effets numériques, notamment plutôt que de faire venir des figurants, parce que c'était extrêmement coûteux aussi hein, de faire un péplum auparavant, et maintenant ça devient beaucoup moins cher. Mais si effectivement ils tartinent d'effets numériques...
Ah oui, alors là on voit juste en fond en fait des petits corps qui bougent comme ça et qui sont censés donc faire les centaines de figurants, et même ça c'est très mal fait. Voilà.
À oublier donc Gods of Egypt.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
En l'espace d'une poignée de films, hein, l'intrigant Kill List et puis l'amusant Touriste, hein, Ben Wheatley est devenu la coqueluche indé des amateurs de cinéma bis et déviant. Alors nettement plus ambitieux que ses précédents opus, High Rise était attendu au tournant, cette adaptation d'un roman de Ballard, appartenant à la même trilogie que Le Crash réalisé par Cronenberg, nous immerge dans un séduisant univers rétro-futuriste, ornementé de tous les oripeaux vintage des 70s, avec des éléments de décor du futur, tels que l'aurait imaginé un écrivain de cette période. Alors le dispositif esthétique fascine dans un premier temps. Le récit se déroule dans une tour où riches et pauvres vivent séparés. Un événement anodin va faire basculer dans le chaos les occupants de cet espace clos. Le docteur Robert Lang, nouvel arrivant, est invité par l'architecte nanti Anthony Royal, qui lui explique comment fonctionne l'organisation du système. Le médecin comprend vite l'impitoyable système de classe qui régit la vie des habitants jusqu'à l'explosion. Il va essayer de lutter contre cette déchéance progressive, cette orgie de sexe, de violence et d'alcool ininterrompue, mais il va finir lui-même par succomber à la tentation, se laisser aller, oublier toute forme de morale et principe, et même se sentir plutôt bien dans cette atmosphère au relent d'apocalypse. Alors le thème est passionnant, hein, il rejoint en effet les grandes préoccupations alarmistes du génial Ballard, l'un des plus pertinents satiristes de la société consumériste qui mène l'individu à sa perte, à travers des écrits allégoriques, drôles et inquiétants. Il s'en prend en premier lieu au système capitaliste qui, par essence, enfin pour lui, hein, est décadent. High Rise ne déroge pas à la règle. Hein. Pendant une bonne heure, Ben Wheatley, fortement aidé par un casting 4 étoiles, hein, parmi lesquels submerge Tom Hiddleston, qu'on avait vu dans Crimson Peak, et un impressionnant Jeremy Irons. Hein. Alors voilà, Wheatley nous embarque dans son univers barré, provocateur et intrigant, qui rappelle curieusement les films de Buñuel, notamment L'Ange Exterminateur. La lente dégringolade psychique et physique des occupants de la tour prend des allures de fable surréaliste et prophétique que n'auraient pas renié David Cronenberg et Stanley Kubrick. Mais ensuite, les choses se gâtent, le récit tourne en rond, le réalisateur filme en boucle une certaine idée de la dépravation et pour maintenir l'intérêt, et là c'est le gros problème du film, il truffe son film d'effets visuels cheap digne d'un Terry Gilliam en période de radotage formel. Je pense surtout au dernier Zéro Théorème. Le passé de publiciste revient aussi à la charge. La mise en scène se délite, accumule les plans esthétisants inutiles, les digressions farfelues mais gratuites et souvent éreintantes. Mais le plus gênant dans High Rise réside dans ce regard impitoyable posé sur les personnages, totalement dénué d'empathie et de compréhension. Les personnages là ne sont que des pantins grotesques qui méritent au fond ce qui leur arrive. Les riches ne sont que des ordures cyniques, les pauvres des imbéciles qui s'enfoncent dans leur crétinisme et la classe moyenne des opportunistes ne rêvant que de franchir les échelons et d'arriver en haut de la tour. Le réalisateur filme tout ce petit monde de haut de manière un peu cynique et condescendant. Alors Kubrick le faisait aussi, mais avec génie et malgré tout davantage d'humanité. Wheatley n'est au mieux qu'un bon artisan, hein, au pire un petit malin. À mon sens, plus doué pour les petits films d'horreur bien glauques ou alors un peu parodiques que pour un projet aussi complexe que High Rise, œuvre intéressante, parfois surprenante, mais au final un peu ratée et un peu déplaisant aussi.
Bon, il y a quand même à prendre et beaucoup plus dans Gods of Egypt.
Non, il y a à prendre. C'est un film intéressant, mais raté. Ce genre de film ambitieux, mais pas totalement réussi.
Allez, on va écouter maintenant l'interview de cette émission.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi ?
Alors, nous allons parler de Par amour, per amo, vostro de Giuseppe M. Godino. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que veut dire ce M. Godino.
Maurizio,
peut-être. On va écouter aussi Valeria Golino. Donc, ils étaient présents au Cinémed à Montpellier lors du festival Ciné Méditerranéen parce que ce film avait fait l'ouverture et c'était assez étonnant de voir Paris Film faire l'ouverture du festival. Alors, nous sommes à Naples. Anna est partagée entre trois vies, celle d'épouse brimée, celle d'une mère fusionnelle avec ses enfants qui vont bientôt quitter le foyer, et puis celle d'amante. Et elle a fini par renoncer à ses envies d'amour et s'est empêchée de nourrir ses rêves. Alors si l'interprétation de Valeria Golino est impeccable, c'est la mise en scène qui, avec sa tendance à surligner les émotions et les pensées de son personnage principal, qui tend à surguider le spectateur. Hein. Le film force son style en utilisant gros plans, noir et blanc syncopés, de passages en couleur et autres effets musicaux. Alors les choix de Giuseppe Godino sont radicaux, comme celui d'identifier le visage de Valeria Golino à un paysage. Alors ça, c'est un des effets, notamment. On va écouter le réalisateur et puis son actrice. Alors, on ne va pas tellement entendre son actrice, mais elle va dire quand même quelques mots.
Azione!
Che cos'è che vuoi da me?
Io ti amo. Non credevo di poterti amare così.
Noi volevamo raccontare...
Voulez raconter la fragilité et la contradiction de la réalité.
Et Valeria s'est
bien soumise à cette enquête permanente qui ne laissait pas d'espace à autre chose.
Comme
si c'était un vrai paysage.
Il y a souvent des scènes où mon visage, le personnage d'Anna, elle est là, mais tu la vois jamais. Il y a des scènes où tu vois tous les autres, mais pas elle. Tu vois sa main, son épaule, tu vois qu'elle marche, tu vois un peu un morceau, mais elle n'est pas là. Parce que c'est un point de vue sur les autres. C'est le menton de quelqu'un, elle n'est même pas là. Anna.
Valeria,
à un moment donné, l'histoire d'Anna, c'est de partage entre parties.
Anna, à un certain moment, est così.
Elle est par moments si ingénue qu'elle accepte tout et si méchante qu'elle dit des choses très crues.
Questa convivenza.
Et ce dédoublement, ce moment de dédoublement qui vivent ensemble, en fait, qui sont normal.
Qui vivent in questo stato.
Et donc le personnage, mais aussi la personne qui vit dans cet état permanent, n'est pas quelqu'un de serein.
Lei quando assume il ruolo di madre.
Donc elle est émue quand elle est mère, quand elle est dans ce rôle de mère, elle s'émue quand elle fait quelque chose pour les enfants.
Et fa la madre.
Et c'est là, elle est heureuse, elle fait la mère.
Quando fa la moglie, fa la moglie.
Quand elle fait la femme, elle subit en tant que femme, et quand elle fait l'amant, elle croit dans l'amour. J'ai parlé longuement avec mon directeur de photographie, opérateur.
Comment facciamo a
Et la question était comment on fait pour rendre amoureux le spectateur de cette femme.
Et comment renderla che
puisqu'elle a tellement de facettes positives et négatives. Comment faire?
Et comment sentir la sua nostalgia?
Comment sentir sa nostalgia?
Et comment parler de questa?
Comment rendre la noirceur du personnage?
Quindi la sua bellezza.
Et on a réussi à travers sa beauté qui nous permettait de renverser complètement la réalité et rendre la noirceur, la laideur, etc., de par sa beauté.
Et pour habituer à sa bellezza.
Pour s'habituer à sa beauté, on ne pouvait qu'enquêter.
Amore, la parole importante.
Per me, amore, è una parola che non sento quasi più.
Voilà, donc c'était le réalisateur Giuseppe Maurizio Godino et puis Valeria Golino pour le film Par amour ou Per amo vostro qui est dans les salles depuis le 13 avril. Un film, voilà, vous pouvez vous laisser tenter d'ailleurs si vous aimez énormément l'actrice hein, parce qu'elle prend une large place quand même dans ce film. Allez, on retourne au cinéma français.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
L'affaire est entendue, la loi sur le mariage pour tous est passée, mais a laissé des traces dans notre pays et a surtout mis en exergue des comportements et propos que l'on ne croyait plus entendre depuis des lustres. Surtout, elle a cristallisé un nombre incroyable de crispations, de tensions et de malentendus au sein d'une France qui a dû paraître totalement rétrograde vue de l'extérieur, enfin essentiellement des pays voisins comme l'Espagne ou l'Angleterre qui ont voté le texte sans heurts et sans manif dans la rue. Alors c'est donc dans ce passé récent et pas très glorieux que les auteurs de la sociologue et l'ourson ont décidé de se plonger. A priori, s'il n'y avait pas l'originalité d'un parti pris aussi singulier, je ne sais pas si j'aurais eu envie de m'immerger dans ce moment d'histoire limite nauséabond.
Allô maman, ça va?
Je
suis dans le métro et j'ai plus que 10% de batterie.
Alors, c'est juste pour te dire que ça y est, le film est fini.
Ah, c'est super. Ah, ça, je vais dire ça à ton père, il va être aux anges.
Et donc, maintenant, je peux t'en parler un peu plus.
Ouais.
On a fait une bonne partie du film en utilisant les discussions qu'on a eues tous les deux au téléphone.
Ah bon ?
Ouais. Et ensuite, on a utilisé le son de ces enregistrements et on a recréé des scènes avec des jouets et des peluches.
Je me représente même plus quelles étaient nos discussions au téléphone. C'est quand tu me faisais parler de ma famille, non ?
Ouais, quand tu me parlais de ta grand-mère, de ta famille, mais aussi de plein d'autres choses. Des évolutions du mariage, des couples homosexuels, de comment on fait les enfants, surtout quand on n'y arrive pas, de l'évolution des mœurs à travers l'histoire, des mères porteuses, tout ce que tu m'as raconté, quoi.
Bah, et tout ce que vous avez filmé avec moi ? Vous m'avez quand même suivi pendant des mois, partout ?
Oui, oui, on te voit aussi en vrai, avec les politiques, dans les manifs, sur les plateaux télé, on va à l'Assemblée, mais aussi à la maison. En gros, on a essayé de comprendre pourquoi tout le monde en France s'est engueulé pendant un an sur le mariage homo.
Alors, la sociologue Elle Ourson ne dévoilera rien que l'on ne sache, mais son approche ludique, pédago et bienveillante est surprenante. En effet, les réalisateurs ont pris le parti de réaliser leur documentaire en animation en filmant des peluches. Par contre, les voix issues de personnalités diverses sont authentiques. Alors, ce dispositif assez unique crée une sorte de distanciation bienvenue, presque dépassionnée sur un sujet important, symboliquement. Loin de tout esprit revanchard et polémiste, Mathias Théry observe sa mère, Irène, sociologue très impliquée dans le débat. Elle apporte une lumière pertinente sur l'histoire de la famille, l'évolution logique et non naturelle du lien marital et se moque gentiment d'une certaine ignorance d'une frange de la population engoncée dans leurs idées réactionnaires. Alors, les images live s'intègrent parfaitement à l'animation, toujours inventive et charmante. Les apparitions de Brigitte Bardot ou de certains députés sont assez savoureuses. Alors, on saura gré aux deux réalisateurs, Étienne Chailloux et Mathias Théry, de n'avoir pas chercher à attiser le feu, à mépriser ceux du camp d'enfance en face, même si au fond, il n'y a aucune ambiguïté. Il s'agit juste d'une démonstration qui peut heurter quelques Français, mais pas de quoi fouetter une peluche dans ce joyeux documentaire qui mêle adroitement intimité d'une mère et d'un fils et réflexion plus générale sur la société et son évolution. Alors je trouve que c'est une vraie réussite et en plus, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est assez court, 1h20. Moi, c'est un critère maintenant pour les films.
Ouais, mais maintenant, les documentaires sont relativement courts,
oui,
hein,
non,
j'ai
c'est
remarqué.
Bien. Ah, mais il y en a un qui sort aujourd'hui qui fait plus de 3 heures, le documentaire de Frédéric Wiseman. Sur l'Amérique.
Mais celui de Raymond Depardon qui va sortir bientôt fait moins d'une heure et demie. Enfin voilà, moi j'en ai vu 2-3 là dernièrement qui font moins d'une heure et demie. Et celui-ci, donc, la sociologue Elle Ourson, est déjà dans les salles depuis le 6 avril.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors, il a fait les nuits avec Théodore, avec Agathe Bonitzer, deux automnes, trois hivers avec Vincent McCain, soit autant de films que je n'ai pas vus. Il était temps de me rattraper avec Marie et les naufragés embarquant des comédiens que j'ai plaisir à voir, comme Pierre Rochefort, vu dans le film de Nicole Garcia, sa mère, donc un beau dimanche le film, et Vima Laponce qui a une tendance à irradier les films dans lesquels elle joue, et on la voit beaucoup ces derniers temps. Il restait à dépasser un a priori de taille. Eric Cantona, l'ancien footballeur, est effectivement au casting, choisi pour sa capacité à faire rire malgré lui, et j'avoue que ça fonctionne plutôt bien. Alors nous avons là 4 personnages, soit 4 destins qui vont finir par s'enchevêtrer. Il y a Siméon qui tombe amoureux de Marie, il y a son colocataire somnambule qui le pousse à aller vers elle, il y a l'ex de Marie, un écrivain en manque d'aspiration qui met en garde Siméon en lui disant « Marie est dangereuse », et là c'est Eric Cantona. Et puis il y a Marie, entre mélancolie et spontanéité. Tout ce petit monde bien conscient qu'il leur manque quelque chose, comme une part de romanesque dans leur vie, et bien ces 4 personnages vont donc accepter une aventure. Et même si l'aventure ne les mènera pas si loin, c'est en Bretagne, et bien chacun aura mué dans ce temps-là. Alors avec Marie et les naufragés, nous sommes dans une comédie sentimentale qui s'épanche vers le conte fantastique et puis fantaisiste. Le film de Sébastien Bette-Bédé, et pas Beg-Bédé, fourmille de moments burlesques très bien exploités. Alors par exemple, le colocataire, le personnage sans doute le plus drôle du film, qui est absolument inconnu au bataillon, est sujet au somnambulisme et il place un dispositif de caméra dans l'appartement à la manière de Paranormal Activity. Un dispositif que le réalisateur décline avec ce qu'il faut de fantaisie, d'inspiration pour produire d'autres effets, transformer une matière première qui finit par être vraiment véritablement comique et plutôt jouissive. Alors quelques plans, des dialogues bien écrits, un bon casting parviennent aussi à faire du film autre chose qu'une aimable comédie sentimentale. On aperçoit notamment, on voit Emmanuel Riva, hein, qui fait une courte apparition, sans gravité aucune, interprétant une ancienne actrice donnant le change à la jeune Marie, qui elle se construit. On croise aussi André Vimes, interprétant un chanteur complètement allumé, aux allures de gourou des années 70-80. Tous les personnages de ce film ont quelque chose qui les rend attachants, la musique tient une place importante, les créations... du colocataire sont en fait celles de Sébastien Tellier qui, s'agissant de fantaisie, en tient une bonne. Et là aussi, bah, c'est plutôt réussi. Alors même si on pourrait y voir des similitudes, c'est moins loufoque que La fille du 14 juillet, mais ça m'y fait énormément penser, notamment parce qu'on voit la même actrice, hein, Vima Laponce, et puis que le réalisateur a aussi fait jouer Vincent Macaigne. C'est un des acteurs... de La fille du 14 juillet. Mais on a là à peu près ce même cinéma qui s'éloigne énormément de toutes les comédies formatées françaises qu'on voit actuellement. Et
j'ai lu qu'il y avait un petit côté aussi Wes Anderson.
Oui, mais c'est pas si disons que dans l'image, ça se voit plus tellement, là, par contre. Mais voilà, oui, je vois à peu près ce que ça signifie. Mais ça reste un film français, malgré tout. Enfin, voilà. Donc, Marie et les naufragés, c'est un film à conseiller et ça sort le 13 avril.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Et on termine sur l'avenir. Nathalie est prof de philo, elle aime passionnément son métier et le pratique depuis des dizaines d'années, mettant un point d'honneur à aider ses jeunes élèves à penser par eux-mêmes. Elle, qui se bat pour faire éditer des manuels de philosophie, apprend soudainement qu'elle se fait renvoyer de sa maison d'édition. Son mari, lui aussi prof de philo, la quitte pour une autre femme et elle est obligée de mettre sa mère maniaco-dépressive en maison de retraite.
Madame, vous dites rien, vous n'êtes pas concernée.
Ah non, mais moi je suis pas là pour faire de la politique, je suis là pour faire quoi aux élèves que ça intéresse.
Lorsque je l'ai rencontrée, votre mère distribuait des tracts pour le PC.
Ok, j'ai été communiste pendant 3 ans, y'a pas de honte. Ça vient.
La classe prépa, normal, sup, tout ça c'est grâce à toi, je vais te le dire.
My daddy m'explains, so they fly.
C'est son chouchou, papa, tu sais.
Ah, le fils qu'elle aurait aimé avoir. Celui qui est tout le contraire de moi, tant sur le plan physique que sur le plan intellectuel.
Excusez-moi, je dois partir. C'est ma mère, elle est folle, je dois m'occuper d'elle.
Te soumettre le projet de remaniement de ton manuel.
Une couverture plus moderne, plus agressive, qui accroche le regard.
On dirait des pubs pour bonbons Haribo. De toute façon, nous les femmes, après 40 ans, on est bonnes à jeter à la poubelle.
Je suis sûr que tu vas retrouver quelqu'un, y a pas de raison.
Tu fais comme si tout allait continuer comme avant, t'es sur quelle planète? Réveille-toi!
Je veux bien aller à des manifs, signer des pétitions, ça remet pas en question ton mode de vie.
Mon mode de vie bourgeois, tu veux dire? Bon, j'y pense, j'ai retrouvé ma liberté. Une liberté totale. C'est extraordinaire.
Alors ça aurait pu s'appeler « Femme au bord de la crise de nerfs », Mia Antonova a choisi de l'appeler « L'avenir », car son film est résolument orienté vers le renouveau, plutôt que crispé sur les multiples pertes que doit affronter son héroïne. Car finalement, une fois débarrassée de sa famille, Nathalie va jouir d'une liberté retrouvée, d'une liberté toute neuve, comme elle n'en avait pas eu l'occasion depuis longtemps. Sans faire l'impasse sur la souffrance de son personnage principal, sans non plus jouer la carte du feel-good movie, Mia Antonova peint un portrait de femme de 50 ans avec une justesse qui est assez surprenante quand on sait que la réalisatrice n'a que 35 ans. Sa trajectoire est totalement dépourvue de romanesque, de coups d'éclat, ses remises en question sont volontairement intériorisées, et le tout est d'une légèreté et d'une subtilité surprenantes portées par une Isabelle Huppert qui dévoile une facette tragicomique assez inattendue. Toute la galerie des personnages, et le film en comporte beaucoup, est très bien écrite, très crédible, très bien interprétée. Dans la seconde partie du film, Nathalie décide de partir dans le Vercors, rejoindre un de ses anciens élèves, joué par Roman Kolinka, qui sera d'ailleurs sûrement l'une des prochaines sensations du cinéma français, et elle se retrouve confrontée à de jeunes libertaires plutôt radicaux qui la font s'interroger sur ses convictions et sur la place de la philosophie au sein de sa propre vie. Alors, on va pas se mentir, hein, c'est vraiment le film bobo par excellence. On y encense les valeurs intellectuelles plutôt que les plaisirs charnels. On écoute du Schubert et du Brahms et on déambule dans une sorte de Paris fantasmé, lumineux, fleuri, plein de gens sympas. Enfin, pas suite de Jacques Audiard, quoi, clairement pas. En définitive, eh bien, cet avenir est un film assez singulier et assez réussi, dans lequel Mia Hansenlove poursuit en quelque sorte la thématique abordée dans son précédent film Eden, à savoir comment reconstruire sa vie quand elle sort des rails sur lesquels on était. Voilà, c'est plutôt réussi, mais il faut vraiment aimer le genre du cinéma français d'auteur. Il ne faut pas y être allergique, par contre.
On n'a qu'à aller voir l'avenir, d'abord, voilà, avec Schubert et puis les appartements parisiens, puis le questionnement.
Et puis,
Marie et les naufragés, pour avoir le petit côté fantasy-comédie avec la musique de Sébastien Tellier, donc une musique plutôt électro. Hein, voilà. Voilà, on peut le faire comme ça.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Alors, la semaine prochaine, nous aurons encore des interviews. Celle de José Luis Guérin pour l'Académie des Muses, qui est sortie le 13. Mais on l'a gardé au chaud pour la semaine prochaine. Et puis, on aura...
Bérangère Krief pour Adopte un veuf.
Et oui, une comédie française, justement, les fameuses comédies françaises.
À la semaine prochaine!
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.